Sans transition, Aubry, on va à présent parler de tout autre chose que de François Hollande, puisqu'on va parler de grosses limaces et de champignons parasites.
Et de pissenlits.
De pissenlits. Mais là, du coup, t'as cassé ma vanne. parce que champignons parasites et grosses limaces, ça pouvait... Bref. Dans le film Planète de Momoko Seto, sorti il y a 2 semaines, et qui est pour sûr un ovni cinématographique, en vérité, qui est un projet mené sur plusieurs années, quasiment une décennie en fait, par cette réalisatrice japonaise vivant et travaillant en France, à la fois formée aux Beaux-Arts et associée au CNRS, un projet hors norme aussi par son ambition visuelle et scientifique. C'est tout ça à la fois Planète, Planète au pluriel, et ça raconte la folle odyssée de 4 akènes de pissenlit, donc pour qui l'ignorait, comme c'était mon cas, les akènes, ce sont les petites graines de pissenlit, du pissenlit qui s'envolent dans les airs, qui se retrouvent, alors tenez-vous bien, propulsées dans l'espace suite à l'atomisation d'une planète qui ressemble à la Terre. Porté dans le vide infini des espaces sidéraux, il se trouve absorbé dans un trou noir pour atterrir sur une nouvelle planète, gelée, où la vie, soudainement, se met en marche. Le film, qui dure 1h10, déploie alors pleinement son dispositif et sort du seul régime de l'animation, puisqu'il croise l'animation 3D des akènes, donc avec les prises de vue réelles de décors de glace, de marais ou encore de désert, où les équipes de Momoko Seto ont tourné et ont filmé des phénomènes biologiques assez incomparables. En quête d'une terre fertile où refleurir, nos 4 petits akènes avancent, se perdent et se retrouvent dans un milieu hostile où une grenouille, une abeille ou encore une mante religieuse manque tout bonnement de les supprimer. Il y a un côté absolument impressionnant dans ces planètes, il faut le dire, et rien que pour ça, le film mérite franchement d'être vu avant qu'il ne quitte l'affiche. Moi qui suis un immense amateur d'attractions de type planétarium, j'ai été conquis dès le début par sa très belle musique et par la puissance cosmique qui est convoquée, et notamment dans sa manière de dialoguer avec l'infiniment petit et l'infiniment fragile de ses akènes. Ces jeux d'échelle, qui sont aussi des jeux de contraste, ont une indéniable force, vaste poème de la biodiversité, sorte de genèse à l'heure éco-poétique, où s'est effacée notre présence humaine pour être en fait mieux réaffirmée dans notre sensibilité de spectateur, de spectatrice. Vous entendrez Momoko Seto tout à l'heure en parler mieux que moi. Mais car si l'homme est absent de ce film, la question de sa présence se pose évidemment, un peu dans ces fameux termes posés par Pascal, d'un néant à l'égard de l'infini, d'un tout à l'égard du néant, d'un écartèlement entre l'infiniment petit des akènes et l'infiniment grand du cosmos. Alors je vais peut-être un petit peu loin, mais en même temps c'est ce que j'ai vu dans ce film qui charrie de nombreux imaginaires de la fin du monde et du renouveau, avec un intertexte particulièrement intéressant, en tout cas à mes yeux, qui est celui de L'œuvre de l'ange de Mamoru Oshii, dont Aubry vous a parlé plusieurs fois en conseil dans la première partie de cette saison 3. Œuvre de l'ange convoquée par des figures d'immenses animaux marins flottant dans l'espace, ainsi que par une plongée zénitale sur une patate germée qui rappelle le dernier plan du film de Shi. Mais, à l'inverse du principe de mélancolie biblique et cyclique qui guidait cet animé, Planète y fait le choix d'avancer, certes aussi sur le mode de la boucle, puisque de toute mort renaît la vie, mais sans pour autant se retourner, plutôt sur le mode de l'exploration joyeuse et de la célébration de notre vivant, à nous terriens et terriennes de 2026, plutôt que sur la fantaisie médiévale et hanséatique de l'œuf de l'ange. Bon, après, le film n'est pas qu'un poème visuel, déjà parce qu'en dépit de ses moments de grâce, notamment il y a une limace qui remonte une cascade, c'est magnifique, il a aussi ses moments bien dégueux, comme cette même limace qui décède du fait qu'un champignon pousse à l'intérieur, ce qui fait de ce film une forme de snuff movie, hein, entre autres dingueries, et aussi parce que le passage des époustouflants paysages naturels au labo filmé en studio, digne du camion de C'est pas sorcier, pour être vraiment pas très sympa, sont, pour être gentil, déroutant. Bref, Aubry, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces planètes avant de laisser nos auditeurs et nos auditrices avec Momoko Seto?
Bah, c'était bien. Non, plus sérieusement, moi en fait j'étais assez époustouflé pour le coup par l'animation, enfin par les prises, enfin l'intégration de l'animation aux prises de vue réelles, parce qu'en fait j'étais persuadé pendant tout le film et jusqu'à ce qu'on me le dise quasiment un jour après, qu'en fait c'était que de l'animation, et moi j'avais pas compris qu'il y avait des prises de vue réelles là-dedans. Du coup j'avoue que quand on en a parlé dans l'entretien, enfin je comprenais pas moi. Mais donc voilà, ça c'est assez bluffant visuellement. Et surtout, en fait, ça crée tout un tas de trucs où elle combine l'animation, enfin, une des propriétés clés de l'animation qui est le fait que t'es pas obligé de couper, parce qu'en fait, l'animation, enfin, entre guillemets, les plans se versent les uns dans les autres, enfin, tout peut se transformer à l'image, et sans couper. Et il y a un peu de ça aussi dans le vivant quand tu le filmes, un peu en time-lapse, l'évolution. d'une patate, d'une limace, d'une bactérie, que sais-je. Et bah, y a un peu ce truc-là aussi de la métamorphose au sein même de l'écran sans couper. Et donc ça, c'est assez intéressant. Après, voilà, comme tu l'as dit, le film charrie quand même beaucoup d'imaginaire et d'images juste déjà passées. Il y a tout un truc sur le... Comment dire, un peu, enfin, quasiment les petits balais de fleurs comme ça, qui fait très Walt Disney, mais enfin, version Fantasia. Il
Oui, complètement,
y a tout, effectivement, tous ces récits de fin du monde et de migration parce que la planète est détruite, et qui, en fait, déjà, à plusieurs reprises dans l'animation, comment dire, se sont retrouvés dans des... Enfin, au cœur d'espèces non humaines. Enfin, moi, je pense à un film qui m'a marqué quand j'étais petit, c'est Le Dinosaure de chez Disney, où vraiment juste, bah, c'est un peu la fin du monde aussi, mais on est avec des dinosaures qui parlent. Et alors là, ça parle pas, du coup. Et il y a plein d'autres moyens développés par Momoko Seto pour rendre ces petits akens de pissenlit expressifs. Et ça, c'est quand même un sacré tour de force. Mais donc voilà, en fait c'est intéressant à plein de points de vue, c'est un très 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 bon film pour jeune public, je trouve. C'est à la fois ludique, un peu effrayant, il y a un truc de tempête de sable dans ce film, waouh, voilà. Ben, le film dont on parlera après le fait beaucoup moins bien typiquement, mais sans spoiler.
Tu spoil.
Mais donc voilà, en fait c'est assez chouette, et en même temps, effectivement, il y a des petits trucs, bon, il y a des petites textures un peu dégueulasses quand même. Et en fait, il y a un moment où, entre guillemets, heureusement que le film en fait n'est pas plus long, parce qu'il y a un moment où il tourne un peu à vide aussi à certains endroits. Donc bon, c'est vraiment une curiosité à découvrir, vraiment pour tous les publics. Et puis effectivement, pour l'originalité de sa proposition et de son animation, c'est somme toute... à conseiller à voir, voilà.
Merci beaucoup. On écoute à présent Momoko Seto et sa première assistante, Élise Vercherie, qui était présente aussi au Comédia le 13 janvier dernier. Et on se retrouve, nous, après la virgule, pour la troisième et dernière partie de l'émission.
Les Akens, c'est en 3D, donc c'est la modélisation 3D basée d'une photo hyper réelle des Akens. Donc on a fait plusieurs photos de différents angles avec mon chef opérateur, et tout ça on l'a donné aux animateurs modélisateurs qui sont vraiment basés. Donc les petites piques qu'on vous trouvez sur la base, elle est vraiment réelle, etc. Tout le reste a été filmé, donc c'est un peu, je compare souvent comme Roger Rabbit. Vous avez le vieux film de Zemeckis, ben, c'est un peu ça, c'est, tout est filmé et il y a juste, c'est Roger Rabbit, c'est le lapin, et chez nous, c'est les Aken qui sont en animation. Donc on est allé filmer dans différents lieux pendant 2 ans et demi. Élise a participé sur tout le plus grand tournage qui était en Bourgogne. On a fait toutes les maquettes, les plantes que vous voyez, on a fait une vingtaine de maquettes avec des vraies plantes. Selon les différents écosystèmes, les plantes grasses, les plantes grimpantes, les mousses, les lichens, etc. Et qui a duré 9 mois. Donc ça, c'est en photo, en tournage, tout est filmé. Et on est parti 3 semaines en tournage en Islande pour tout ce qui est le monde gelé. Donc quand ils arrivent sur la planète, le ciel qui est gelé, on a filmé dans une grotte, tout le paysage, voilà, les icebergs, tout ça, on est allé filmer là-bas. Et on a eu une partie au Japon, sur l'île de Yakushima, qui est une île subtropicale dans le sud du Japon, où on a filmé des plantes et des insectes qu'on ne peut pas filmer en France, qu'on a incrusté après, qu'on a filmé sur fond bleu, et qu'on a incrusté après sur les images. Donc en fait, ça s'appelle du compositing. Donc c'est un rassemblage de toutes les images qu'on a filmées pour créer cet univers. Pour la prise de vue, on voulait rester assez réaliste, c'est-à-dire même avec l'étalonneur à la fin, j'ai dit d'éviter de mettre des couleurs sursaturées, tout ça. Il ne s'agissait pas de changer leur nature, mais justement rester dans l'hyper réel. de se rendre compte que c'est des bégonias, c'est des oxalis, c'est des lichens, que les gens se rendent compte de, avec leur vraie couleur, leur vraie forme. Donc ça, c'est des premières choses. Et les akènes, qu'on a donc après en rendu aussi pareil, hyper réel aussi, que ça s'intègre bien et en même temps qu'ils ont cet anthropomorphisme, mais on a essayé de ne pas faire non plus énormément, c'est-à-dire voilà, déjà dans le design, ils n'ont pas des yeux, des bras, la bouche comme on pourrait avoir dans les anciens films où il y avait des plantes qui étaient des personnages principaux, enfin, je pense notamment à Silly Symphony où les arbres avaient des yeux, tout ça. Bon, voilà, moi je voulais sortir de là, c'est-à-dire il ne s'agissait pas de rendre des plantes humains mais être plantes. Donc j'ai aussi conservé tous leurs mouvements de déplacement, comment ils attrapent le vent, comment ils s'enroulent, comment ils s'accrochent à des plantes. Donc tous ces mouvements-là qui ne sont pas de l'anthropomorphisme, parce que nous, humains, on ne peut pas le faire, bah, eux, ils le font. Après, ils sautent. Ce n'est pas 0 ou 100. C'est-à-dire il y a un peu d'anthropomorphisme, c'est-à-dire il y a des hugs, il y a des choses. Mais aussi, j'utilise tout leur vocabulaire de mouvement aussi. Donc c'est un peu un mélange des deux. Les émotions des personnages principaux, déjà dès la phase de l'écriture, donc dès le scénario, c'était vraiment le plus grand enjeu, c'est-à-dire comment vous faire sentir de l'émotion, rire, pleurer, être inquiet, tout ça, en regardant des graines de pissenlit. C'est quand même un challenge, il faut le dire. Et donc, et je pense que voilà, moi j'avais fait des films plutôt expérimentaux, très beaux-arts, je sors du Fresnoy, donc je suis vraiment dans le cinéma plus expérimental et tout, et l'enjeu c'était comment, voilà, avec ce background, je pourrais raconter une histoire émotive. Et donc Alain Lera, qui était le scénariste, le co-scénariste, qui est quelqu'un d'extrêmement émotif d'ailleurs, a injecté beaucoup de l'émotion dans l'écriture même. Donc voilà, d'être toujours avec eux, de ne pas sortir de leur point de vue, même si les groupes sont séparés, d'être voilà, toujours dans leur point de vue de chacun, avoir ce retrouvaille, voilà, des défis et des suspens entre eux. Donc tout ça, ça a été vraiment dans l'écriture. Après, dans le tournage aussi, quand alors en animation, on monte avant le tournage, ce qui est différent de la fiction, parce que toute l'animatique se fait avant le tournage. Donc même avec le monteur, il me disait, là, on a besoin d'un gros plan pour avoir vraiment leur expression. Donc on rajoutait comme ça, avant même le tournage, des expressions, des sentiments. Et après, surtout aussi en animation, quand on a travaillé avec Guillaume Leroy, donc la chef anime, qui a piloté toute son équipe, il s'agissait vraiment de travailler les vocabulaires des expressions quand ils sont tristes, les aigrettes qui tombent, la façon de mouvoir qui est un peu plus différent de chacun, qu'on s'identifie à ces quatre graines différemment. Donc tout vraiment des travaux de dentelle, quoi, parce que voilà, c'était quand même un bâton et quelques plumes qu'il fallait animer. Donc on est vraiment dans quelque chose de très subtil, mais qui transporte l'émotion. Donc c'était vraiment sur chaque phrase, chaque phase de production, on était vraiment focus, et même le producteur, Emmanuel Reynal, il me disait toujours focus sur les personnages, nous on veut sentir l'émotion, ici on veut déjà se sentir rassuré sur cette scène, à ce stade-là, donc ils étaient vraiment très vigilants. Bah déjà, les akènes de pissenlit, c'est quelque chose d'extrêmement familier.
Oui.
Je pense que voilà, tout le monde, si je vais vous parler des graines de mangrove, je pense que vous n'avez pas vraiment vu ni touché. Moi, je sais qu'ils sont un peu extraordinaires comme forme. Donc, il y a cette familiarité. Et moi, j'aimais bien, en fait, c'était en regardant la boule de pissenlit que je trouvais que, en fait, j'aime bien le côté très mathématique de cette boule. Très répétitive, très fractale, qui est très science-fiction déjà en soi. Et en fait, quand on la voit, elle est organique, mais elle est très structurée en fait. Donc, je voyais vraiment un vaisseau scientifique futuriste où cette boule partirait de la terre, errait dans l'espace et se casse dans un autre endroit, et puis toutes ces graines qui partent. En fait, la boule même, elle est constituée des parachutistes, donc voilà, pas besoin de matériel. Pour moi, c'est très futuriste. Et c'est à partir de là que j'avais voulu écrire. Et en fait, ce qui est super avec les graines, c'est que quand on a cette ambition de faire un film d'aventure végétale, ben la graine, c'est la forme la plus mobile d'un végétal, parce qu'une fois plantée, elle bouge, mais pas trop. Mais en même temps, elles vivent toute une histoire d'aventure, les graines, parce qu'elles ont toutes sortes de stratégies d'implantation. Et j'aimais bien aussi ce côté un voyage pour trouver un chez-soi. Donc les graines cherchent un chez-soi, comme nous, un peu. Et donc j'aimais bien ce lien entre voyage, migration et graines, quelque chose de très fondamental, ça cherchait la terre, le sol, qui était très basique et ce qui s'apprêtait à un film d'aventure. Planète A, c'était en 2008, c'est mon film de fin d'études du Frénois. C'était la première fois que j'utilisais la technique de time-lapse, de filmer les formations de cristaux et faire une planète avec, donc juste avec de l'eau, un ficelle et du sel. Planète Z, c'était 2011, où j'ai filmé des blobs qui apparaissent aussi dans le film, ou certains champignons, des plantes. Donc voilà, ça c'était aussi un peu la suite aussi de toujours dans cette idée de. Comment faire une science-fiction avec des plantes, avec des vivants qui nous entourent. Planète Sigma, c'était en 2014, donc là j'ai introduit des insectes. J'ai commencé à travailler avec Élie Levé, donc le chef opérateur du film, qui était spécialisé dans la caméra fantôme, filmé en hyper ralenti. Donc là c'était l'idée de mettre une énorme insecte comme un Godzilla qui arriverait dans ce monde de moisissures. Tout en ralentissant les mouvements, donc c'était l'exploration de comment accélérer, ralentir, agrandir, réduire et créer un écosystème qui a l'air de tenir en soi comme ça, qui n'a pas du tout une accélération tout d'un coup très rapide qui nous échappe et qui colle un peu nos imaginaires dans cette transformation complètement fictive des vivants. Et donc c'est à partir de là que j'ai eu envie d'aller encore plus loin dans les métamorphoses des vivants, dans l'exploration des différents acteurs que j'avais envie de filmer. Les grenouilles, des icebergs. Dans Planète Sigma, j'ai des icebergs que j'avais fait moi-même en moulage, qui étaient grands comme ça. Ça se voit un peu. C'est très touchant. Mais du coup, je voulais vraiment confronter à des vrais icebergs, à des grands, et filmer vraiment une montagne. Et comment on fait si on colle une grenouille qui est grande comme ça dedans? Est-ce que ça marche encore? C'était aussi tous ces challenges qui venaient un peu de mes courts-métrages. Le pluriel, c'était parce que au début, je voulais donner un nom à cette planète, comme A, Z, Sigma. Et en fait, avec mon co-scénariste, on avait gardé un pluriel pendant longtemps, et on s'est dit un jour il va trouver un nom à cette planète. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit mais il ne faut pas de nom à cette planète, parce que c'est peut-être la planète Terre, puisque là, tout ce qu'on voit, c'est des choses quand même de planète Terre qu'on voit. Peut-être c'est une autre planète, peut-être c'est juste des écosystèmes, plusieurs qui sont mis ensemble. Et en fait, le pluriel, il a induit à ces troubles, à cette ambiguïté qui est peut-être c'est chez nous, peut-être c'est pas chez nous, peut-être il y a plusieurs choses, peut-être c'est une unité. Et donc on aimait bien l'idée que ça soit pas une planète ailleurs, voilà, j'aurais appelé une planète alpha, c'est pas chez nous, c'est clair, parce que c'est une planète alpha, mais tandis que si c'est un S, c'est peut-être chez nous. Et j'aimais bien ce retour en arrière, un peu comme Bruno Latour qui dit c'est pas le futur, il est pas dans d'autres planètes, mais chez nous. Et ce pluriel, elle nous fait ce retour-là. Oui, alors on a travaillé beaucoup avec des chercheurs, et d'ailleurs je pense que c'est le moment où je peux aussi faire parler Élise, ma première assistante. Donc avant le tournage, je consulte beaucoup de chercheurs, pas que pour leur être, mais aussi comment les faire filmer, comment les tourner. Par exemple, les limaces que vous avez vues dans le film, les limaces sont des animaux nocturnes. Donc quand on met 2 kilos de lumière, elles ne bougent plus. Donc voilà, comment on va faire? Tout ça, je ne le sais pas. Moi, je prends limace un peu par fantaisie, par idée. Ça faisait un peu Jabba the Hutt dans Star Wars. Bon, voilà, des petites références. Mais les faire tourner comme des acteurs sans les maltraiter, c'est tout un. Voilà. Et en plus, il faut les maintenir en vie, en captivité pendant des jours et des jours. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'elles mangent? Comment les conserver? Quelle température? Quelle humidité? Quelle boîte?
Ouais. C'est vrai. Moi, je suis arrivée sur le projet, c'était à la fin du mois de novembre et le tournage a commencé au mois de janvier. Et donc, dans le plan de travail, il y avait des scènes avec des limaces bébés au mois de février. Voilà. Et donc, Momoko m'avait transmis les coordonnées des personnes avec qui elle avait déjà pris contact sur les spécialistes de limaces. Et donc, je les ai tout de suite contactés. Et donc, j'ai découvert hein, qu'en février, il n'y a pas de limaces, en fait. Donc c'était un peu compliqué, d'autant que le challenge allait au-delà, puisqu'en plus il fallait des bébés limaces, donc il fallait qu'elles se soient reproduites. Et bon, j'étais un peu en panique. Je suis allée en Suisse pour que ce scientifique Willy Schneepath me donne une des limaces qu'il avait lui-même et qui m'avait dit peut-être qu'elle va pondre, on ne sait pas. Finalement, le plan de tournage a fait que ce sont des scènes qu'on a tournées au mois de juillet, et c'est aussi difficile d'avoir des limaces en juillet, qui faisait très chaud. Mais entre-temps, j'ai collecté des limaces, etc., que j'ai élevées. Voilà. Donc j'ai appris à les nourrir. Alors pour l'info, elles adorent les croquettes pour chatons. Voilà. Ça marche très bien. Et la laitue, pas particulièrement, apparemment. Mais bon, enfin voilà, c'est tout un équilibre quand même. Et ensuite, effectivement, pour les diriger, en fait, pour le tournage, c'est vrai que c'était très compliqué, d'autant que pour revenir sur un des procédés techniques du film, il y a par exemple un moment où les limaces gravissent une falaise. Donc là, c'est une prise de vue réelle qui a été faite en Islande, qui avait été faite avant le tournage sur lequel on filmait les limaces. Et donc, moi qui ne connaissais pas les procédés de post-production et de compositing, je parlais beaucoup avec Franck Malmain, qui est le directeur de post-production, sur mais comment on va faire en fait. Bon, et puis les choses se sont déroulées, et notamment pour ces scènes-là. Donc on a fait une impression 3D du relief de la falaise, donc à échelle de limaces, et puis donc il fallait leur donner une espèce de trajectoire. Alors là, c'était vraiment le casse-tête, hein, parce que ce que je disais auparavant, en fait, les limaces, c'est des animaux qui sont vraiment sauvages, c'est des animaux qu'on ne dompte pas et qui ne s'habituent à rien en particulier. Donc c'était vraiment difficile. Alors j'ai essayé de trouver des subterfuges, mais ça marchait une fois, pas deux. Donc c'est vrai que le tournage des limaces, c'était quelque chose qui a été assez long. Il y a un truc qui marche un petit peu, c'est de mettre une traînée avec un pinceau de blanc d'œuf, par exemple. Mais bon, ça marche pas tout le temps. Voilà. Alors bon, c'est, enfin voilà, pour ce genre d'anecdote. Après, il y avait aussi.
Il y avait pas que. On parle beaucoup de limaces, mais on avait la menthe religieuse, ouais, ouais. On avait des mille-pattes, on avait la grenouille, la rainette,
les abeilles,
les papillons, que pareil, Lise les cultivait.
C'était les blobs aussi.
Les blobs, ouais. C'était souvent Élise qui les cultivait.
Ouais, c'était mon job, entre autres.
Les champignons aussi, vous avez dû les cultiver.
Ouais. Oui, pareil, on est allé. Enfin, elle est allée chercher le.
Alors, ouais, je me suis rapprochée en allant dans une épicerie. En fait, j'ai vu qu'il y avait des pleurotes. J'ai demandé à la personne qui était son fournisseur. Et puis, j'ai récupéré des ballots comme ça de culture de pleurotes. Ça a très bien marché. Ouais. Ça marchait vraiment bien. Après,
Après, il y avait la trompette de la mort.
Trompette de la mort aussi.
Qui n'est pas du tout cultivée du tout. Ouais. Donc ça, il faut vraiment aller chercher dans la forêt.
Ouais, ouais, ça, c'était aussi un truc.
Tu es allée jusqu'où déjà ?
Je suis allée en Corrèze pour aller chercher des bananes. Et pareil, c'était un truc qui devait se tourner au mois de juillet. Et il faisait très sec, non, il faisait chaud. C'était le 7 juillet. Et donc, je suis allée sur tous les forums imaginables de gens qui sont des chasseurs de champignons. Puis j'ai vu sur un groupe Facebook, il y avait quelqu'un qui parlait de petites trompettes de la mort. Voilà, je les ai contactés. Et puis, je suis allée avec une pelle, une caisse. Et puis, j'ai prélevé une motte de terre où il y avait des toutes petites... trompette de la mort, et puis en revenant, tout était prêt pour qu'on fasse les installations de time-lapse. Et vous pouvez observer dans ce film peut-être le seul time-lapse de trompette de la mort. Il y a énormément en fait dans ce film d'éléments comme ça, je pense, qui sont issus de tous les matériaux que toi tu avais déjà créés dans tes courts-métrages et de tout ça, et qui enrichissent vachement ce film et qui donnent à voir des choses assez extraordinaires quand même.
C'est tout l'imaginaire du génial Nicolas Becker, donc qui est notre ingénieur du son, sound designer et aussi musicien du film, qui lui, il a fait beaucoup de field recording aussi, partout dans le monde, jusqu'en Antarctique, et il a une base de données incroyable. Et tout le challenge, c'était de dire, quand il me demandait ce qu'il voulait que j'enregistre le son réel des plantes avec un géophone, j'ai dit non, parce qu'on n'est pas en train de faire un documentaire sur les plantes. Là, on parle d'imaginaire. Donc, cette plante-là ne sont plus des plantes, mais ce sont des animaux, d'autres types de vivants, puisqu'on les transforme avec le time-lapse, etc. Donc, il s'agissait de coller d'autres imaginaires de sons pour que ça se rapproche plus de cet univers de science-fiction, des êtres fantastiques. Par exemple, l'abeille, typiquement, il me disait, est-ce qu'on met un son d'abeille ? J'ai dit non, c'est un énorme vivant, un oiseau qui vient vers nous et qui nous prend. On doit être sous les ailes, on ne doit pas être en petit, grand, mais on doit être dedans. Et donc il a mis un son presque d'hélicoptère où après on a mixé pour que ça nous englobe, qu'on a l'impression d'être sous ses ailes. Pareil pour les pleurotes, puisqu'on parlait des pleurotes. Quand ça poussait, il avait mis un son... d'une sorte de polystyrène qui t'étirait, et j'ai dit non, il ne faut pas qu'on reste champignon. C'est presque un baobab qui pousse à une vitesse incroyable, un esprit de la forêt, et montrer que cette cohabitation avec les plantes, les champignons, et que voilà, qui pousse aussi grand. Et donc il a mis, je ne sais pas si vous avez repéré ce son, c'est le cri de la baleine blanche qui fait comme ça. Et j'aimais bien l'idée que les petites pleurotes, qu'on a souvent dans l'assiette, ils le transforment en plus grand mammifère terrestre qui est là, qui est si majestueux. Et j'aimais bien l'idée qu'avec le son, on transforme ce qu'on trouve petit, un peu dégradant, à des êtres merveilleux, majestueux, aussi que le son, on participe à ça. Et donc, avec Nicolas Becker, on a travaillé dès le début du film, il est même venu au tournage, pour voir imprégner aussi de l'énergie, aussi des visions qu'on a. On a travaillé pendant 2 ans à chercher tous ces sons-là, surtout aussi sur la voix de les akènes, le souffle, la voix, qui était vraiment un grand enjeu pendant 2 ans. Et la prod, ils étaient très très inquiets en disant « Bon, quel genre de son ils vont émettre ?» Et moi, j'étais là, impossible à vous décrire. Et donc il y a le mélange de bruitage, un vrai bruitage, donc avec un bruiteur qui fait le bruit des aigrettes, des impacts, la présence physique par le son, plus le son des ondes Martineau qu'il a mis. Vous voyez, ça c'est un instrument de musique analogique qui est qui est assez rare. Donc c'est en forme de piano. Après il y a un strip pour moduler. Donc il y a un joueur des ondes qui a créé tous ces différents vocabulaires en fonction des personnages. En plus de ça, il a rajouté son souffle à lui, Donc ça, c'était une jolie idée qu'il a eue. C'était, il s'est dit, bah, tiens, si on mettait des souffles humains, comme ça, qui est presque le plus subtil véhicule de sentiments, de l'émotion que l'humain peut produire sans prononcer un mot, et c'est le souffle. Parce qu'en soufflant, c'est déjà nos sentiments, nos émotions. Et en plus, il disait que c'est un peu le premier son que les enfants ils font quand ils font un bruitage avec un jouet. Genre, il fait comme ça quand il joue dans son chambre. Donc, c'est un peu une méta-conscience de l'enfance qu'il voulait apporter à ce film en soufflant ces graines. On ne sait pas si c'est le vent qui les souffle, si c'est eux qui soufflent, si c'est cet enfant imaginaire qui les souffle. Donc, j'aimais bien cette juxtaposition d'idées qu'il avait à travers ce souffle. Et puis voilà, je crois que c'était trois couches de son qu'il avait mis par personnage sur toutes les scènes. Donc ça aussi, ça nous a pris beaucoup de temps pour les faire. Après, il a beaucoup travaillé avec, donc on n'a pas parlé de musique, mais comme il est aussi musicien, il a travaillé avec Quentin Sirjac, qui a composé tout l'orchestre, la musique du film, en accord avec Nicolas. Ils étaient vraiment en lien, donc parfois le bruitage devient rythme, devient musique, devient silence, et donc ils ont vraiment travaillé en dentelle, par scène, par moment, ce son, rythme, et c'était un peu la chance de ne pas avoir l'ingénieur du son, le musicien, le bruiteur, puisqu'ils étaient un peu tout, ils pouvaient vraiment moduler joliment par scène, et pas un musicien qui colle une musique dans une séquence, ce qui se fait la plupart du temps. Donc ça, c'était vraiment une chance de les avoir tous les deux. Oui, ça, c'était vraiment à l'écriture. C'est vraiment Alain Lérac, ensemble, hein, mais qui disait... alors, lui, il ne voulait pas faire perdre trop de personnages. Il aime bien que tous les personnages restent jusqu'au bout. Je dis, écoute, la nature, c'est comme ça. Je mets une boule de pissenlit, la moitié disparaît. Donc, voilà. Sinon, on serait envahi de pissenlit. Donc, voilà, c'est aussi une manière de dire, est-ce que c'est aussi la mort? Est-ce que le fait que la graine s'implante dans un sol marécageux qui est presque un peu toxique, est-ce que c'est vraiment la mort? Bon, ça n'a pas bien fleuri, mais c'est un peu ambigu aussi l'idée de la mort dans un graine. Pareil, quand on fait des projections, il y avait un enfant qui me posait la question, mais alors la graine qui est partie dans le sable, est-ce qu'il est mort? Mais je dis, bah, pas forcément, parce qu'il y a des graines qui restent pendant des millions d'années dans un sable et qu'on le récupère, on arrive à le faire germer. Donc voilà, on parle de la mort, donc c'est des personnages, donc forcément c'est quand même la première image qu'on a en tête, mais les graines est un peu subtiles dans ce sens-là, et j'aimais bien l'idée que c'est pas tout à fait... C'est quoi la mort d'une plante? On arrache les racines et on le coupe en mille morceaux et on le brûle, oui, là, il meurt, mais si on coupe juste l'eau, il est pas mort, la plante, donc... Voilà, j'aimais bien cette ambiguïté aussi qu'a amené, qui n'est pas juste la mort, la vie, mais quelque chose d'un peu plus cyclique aussi. Mais voilà, pour revenir à l'émotion, oui, c'était l'idée qu'on s'attache à eux, qu'on les perd, et donc le fait de les perdre, bah forcément, les peu qui restent, bah, on s'attache encore plus. Donc c'est aussi cette envie de créer de l'empathie, de l'émotion avec ces graines. Donc oui, tout c'était calculé dès le début. Oui, on a mis 3 ans quand même pour l'écrire. Donc oui, on a eu... quand on pose des mots, c'est quand même plus facile d'expliquer que quand il y a toute une chorégraphie, situation, image, lumière, musique. Mais je trouve que c'est beaucoup plus challenging en tant qu'artiste de vous faire transporter des nuances d'émotions que de poser un mot. Mais oui, c'était... et surtout qu'Alain, il était quand même plutôt spécialiste de dialogue. Donc il n'y en a pas, et donc c'était vraiment dans tout l'art de situation, des événements avant et des événements après qui fait que là tout d'un coup on a cette émotion là. Donc l'écriture est beaucoup plus complexe, à vrai dire, un rythme dans le montage aussi. Et moi je viens plutôt de l'art visuel, donc voilà, j'avais des images fortes, des scènes de calamars dans le cosmos, des étoiles qui deviennent comme ça des formes aquatiques, donc j'ai des idées visuelles fortes, et c'est là comment amener des personnages dedans, qu'est-ce qu'ils ressentent, tout ça c'était vraiment un dialogue avec Lérac pendant 3 ans. Thank you. c'est vrai que pour revenir aux enfants, c'est moi j'ai deux enfants, bah, j'ai envie de montrer ce genre de film à mes enfants et pas des films 3D où il y a des super-héros et qu'il y a des lapins qui vont au supermarché. Enfin, je veux montrer la beauté de la nature, de ce qui est en même temps inquiétant, ce qui nous est proche, le travail du sol. Voilà, le sol, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Donc, voilà, sans les faire peur, mais de dire qu'on est proche de ça. Je pense que c'est vraiment une valeur que je porte sur le film, c'est que je veux que les enfants voient ce film, je trouve que c'est important. Alors, nous, on a fait beaucoup de projections jeunes publics. Pendant le travail de création, moi, j'ai toujours sollicité les enfants aussi pour savoir si ça leur faisait peur. Par exemple, la scène où il y a une espèce de cordyceps qui pousse du corps, je trouvais que le graphisme, il est vraiment allé dans le réalisme. Je dis, mais ça fait peur, non? Et quand j'ai montré, en fait, j'avais fait une projection avec les enfants de quartier. Un peu comme les films à Hollywood, ils font ça, ils font des premiers presses avec les enfants pour voir leurs premières réactions. Donc j'ai fait un peu la même chose, mais à Montreuil, dans mon petit quartier. pour convier les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 12 ans. Et aussi pour tester le mixage. Pour voir si c'est pas trop fort, la bombe de début, ça leur fait pas trop peur. Parce qu'on avait cette discussion aussi avec le mixeur, en disant, bah, si c'est pour enfants, il faut pas non plus que ça explose trop, etc. Donc, en fait, on était beaucoup dans l'anticipation et pas dans le réel. Donc, moi, je me dis, bon, bah, moi, je fais un test avec des enfants pour voir. Et un, le son de la bombe ne les dérangeait pas. Et deux, moi, je dis, il faut lever la main quand vous avez peur à un moment et tout. Et les champignons non plus. Et je fais, bon, alors soit ils sont rodés aujourd'hui. Et en fait, ils voient des choses beaucoup plus violentes que ça, en fait, aujourd'hui. Et en fait, pour moi, je me dis, bon, après, la coexistence des vivants, nous, ça nous fait peur parce qu'on a cette idée de contamination, des choses comme ça. Mais à vrai dire, en fait, c'est tout ce qui se passe aussi dans la nature. Donc, est-ce qu'on supprime en disant, bah non, c'est un peu glauque? Ou est-ce qu'on dit, bah, c'est comme ça? Un peu à la japonaise. Au Japon, on est plutôt dans le dire, bah, c'est comme ça en fait. Et pas avoir ce moral humain en disant, ah ben non, ça, on va pas le montrer. Ça. Et la mort aussi fait partie, et je me suis rendu compte en étant en France, que la mort est tabou aux enfants. On parle pas beaucoup, tandis qu'au Japon, elle est beaucoup plus présente. Je veux dire, en fait, la mort est proche. Et c'est pas très. Enfin, c'est grave bien sûr, mais ça fait partie aussi de la vie. Et j'aime bien ce côté qui n'est pas moralisateur envers la mort, envers le parasitisme, par exemple, qui fait partie. Et en fait, quand je lis beaucoup de livres sur la biologie, sur les vivants, ben, en fait, c'est mon nez courant. Donc pourquoi nous, on a beaucoup de parasitisme dans le ventre aussi. Donc voilà, pourquoi tout d'un coup, le champignon qui parasite un limace, ça devient quelque chose de tabou. Et je pense aussi de là, de très jeune âge, il faut en fait montrer ça. C'est vrai, on a injecté beaucoup d'humour aussi pour que ça puisse. On n'en parle pas beaucoup. Il y avait un journal qui me dit, mais on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'humour dans le film. Et c'était quand même quelque chose aussi d'important pour pouvoir suivre l'histoire et s'attacher. Oui, bien sûr. Alors, pour tout ce qui est le monde gelé en Islande, non, parce qu'on avait fait déjà 2 semaines de repérage. Donc tous les lieux étaient très repérés. Tourner en Islande, c'est extrêmement cher. On a tout tourné en drone aussi. Donc voilà, déjà le pilote de drone mobilisé pendant 3 semaines. Donc c'est quand même un budget. Donc tout est bien décidé, tous les axes, tout le découpage est extrêmement bien fait. Enfin, en tout cas précis. Pour tout ce qui est à Rambuteau, en Bourgogne, avec les plantes, en fait, on a un peu créé les maquettes avec la botaniste sur place. Donc, on avait des focus des plantes, mais pas tout l'ensemble. Donc, la botaniste, elle amenait des propositions, parfois par photo, parfois elle amenait vraiment. Et puis, on le constituait avec le chef déco aussi, ensemble. Donc, on avait le droit à une espèce de marge de création de poésie aussi sur place qu'on pouvait un peu plus contrôler. En plus, on avait le chef opérateur, donc avec la lumière, ça se voit différemment. Donc là, on avait un peu plus de marge. Et au Japon, on était plus dans l'exploration aussi dans la nature, donc on trouvait parfois des choses, on trouvait pas. Parce que là, c'était vraiment dans la forêt tropicale. Et parfois, on trouvait pas ce qu'on cherchait. Donc là, on a pu un peu changer des choses, mais. Donc on avait aussi cette part un peu poétique de flexibilité.
Et puis sur le tournage, en tout cas sur lequel où j'ai travaillé, faut dire quand même qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient expérimentales. C'est-à-dire que Momoko avait une idée probablement très précise de ce qu'elle voulait. Puis bon, on travaillait avec la nature, donc il y a des choses qui sont jamais advenues, d'autres qui ont été des surprises, etc. Donc voilà, ça c'était, il y avait des plantes qu'on voulait faire pousser, qu'on n'a pas très bien réussi à faire pousser, etc. Donc il y avait la place pour la surprise, ouais, c'est sûr.
Alors il y a une scène, il y a une île, et en fait c'est une pomme de terre, oui. Et ça germe. Oui. Moi je le disais à tout le monde, franchement, faire germer une pomme de terre n'est pas plus facile. Vous le laissez dans le placard, même si on n'a pas envie, ça germe. On est tous d'accord, sauf qu'elle n'a jamais germé.
Enfin, elle a germé très très difficilement.
Oui.
Mais bon, l'installation n'était pas propice, quoi. Il y avait la lumière, il y avait tout.
Ah non, on avait fermé en box, ouais, on avait mis l'optique. Oui.
Enfin, ça, ouais.
C'était la seule patate sur terre qui ne germait pas. On avait aussi la reine pissenlit qui ne voulait pas forcément fleurir. Je me disais pareil, alors le pissenlit, vous coupez, vous mettez dans un verre d'eau, il fleurit, il n'y a pas de problème. Donc je me disais, mais c'est le plan le plus facile. On a mis 6 mois, c'était très compliqué.
Ouais, et puis ça n'a pas donné les résultats vraiment qui étaient espérés. Hein.
Ouais. Oui, du coup on s'est dit, en fait il est vraiment sauvage. Il est vraiment sauvage aussi,
le pissenlit. C'est une plante de pleine terre, en fait, ça ne se cultive pas à l'intérieur, en fait.
Oui, mais parfois on avait le pissenlit coupé dans un verre dans la salle de tournage, il s'est formé en fleurs, en boules, il mettait des akènes partout, ce qui nous embêtait, et par contre devant la caméra, non.
Il ne voulait pas.
Non, il y avait quelque chose avec la caméra et le pissenlit, j'ai l'impression.
Rebelle.
Des caprices de star.
Caprices de star, c'est
il en fallait, il en fallait.
Oui, c'est une bombe atomique. En fait, si on voit bien, il y a quelque chose qui tombe.
Et oui, mais justement, moi je croyais que c'était des météorites.
Oui, et en fait, la question s'était bien évidemment posée, est-ce que c'est une météorite ou c'est une bombe? Et pour moi, c'était très important que ça soit une bombe, parce que c'est l'humain qui détruit la planète. Et c'est pas quelque chose de naturel qui détruit la nature. Donc c'était la seule présence humaine que je tenais à voir dans le film, c'est l'humain qui détruit sa propre planète. Et donc c'est la fin de la planète à cause de nous. Et donc c'est pour ça que la forme, elle est rectiligne, une météorite qui n'aurait pas tombé comme ça, pas dans ce forme là et en plus on voit, si vous faites un arrêt sur image, vous voyez le...
enfin,
elle est en feu, etc. Et puis la forme, ouais, bien sûr, qui fait une champignon atomique, qui était aussi une référence de ma part, et le vent nucléaire juste après. Déjà, le tournage, ça a duré 2 ans et demi parce qu'il fallait vraiment tourner toutes ces images-là. Et puis, on a vraiment laissé pousser les plantes. Donc, voilà, il y a des prises qui durent 4 semaines. Donc, voilà, tout ça qui fait que c'est long. L'animation en soi des personnages, ça a duré que 1 an. Donc, ce qui est peut-être relativement rapide. Après, il n'y a que 4 personnages. Voilà, il n'y a pas tous les petits détails. C'était un humain. Donc, bon, voilà. Je trouve que ça a été quand même assez efficace. Et après, le compositing, il a duré 1 an et demi, 2 ans. C'est parce qu'on a énormément de plans. Et puis chaque plan, il n'y a rien qui est automatique, quoi. C'est vraiment fait à la main. Et puis, il y a beaucoup de détourages de fond bleu. Des timelapses, là, on voit très proprement. Mais il y a des sauts, il y a des lumières qui changent. Enfin, voilà, tout ça, il faut les compenser pour ne pas qu'on les voit. C'est pas forcément une science très exacte et propre. On a eu beaucoup de problèmes aussi au tournage. Donc voilà, tout ça, il fallait compenser en post-production. Et en tout, ça a duré 9 ans, mais qui était assez... Enfin, chaque étape, c'était pas non plus quelque chose qui extendait à cause d'un problème ou d'une attente d'un nouveau logiciel. Moi, je viens plutôt des Beaux-Arts, qui est différent de l'école de cinéma. Et je pense qu'on ne se pose pas du tout la même question quand on crée une œuvre. Quand on écrit un film dans une école de cinéma, on va se poser la question, c'est quoi l'histoire? Qui est l'acteur? Comment on fait la mise en scène? Dans une école d'art, on va se poser la question, qu'est-ce qui est nouveau? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui nous apporte de plus? Et on n'a pas de même fondement. Et moi, je viens plutôt de la deuxième partie. En disant, si je vous propose de regarder 1h15 d'un film, qu'est-ce que je veux que ça soit nouveau chez vous? Et même dans moi, dans la fabrication, et même dans ce qu'on raconte dans le monde aujourd'hui. Et, Et je trouve que, enfin, je crois qu'il n'y a pas eu de film avec des graines de pissenlit qui s'aventurent dans une planète, que je sache. Donc, c'était aussi l'idée de créer, raconter une histoire nouvelle qu'on n'a pas eu racontée, mais aussi à travers les plantes. Pourquoi ? Parce que j'aimais bien l'idée que, enfin, j'aime bien l'idée. Enfin, je me nourris beaucoup des écrits des chercheurs et de la philosophie contemporaine, notamment en écologie. Et il y avait dans un écrit d'Anna Tsing, dans Champignon de la fin du monde, elle parlait de se déplacer de ce regard-là et de ne plus considérer la nature comme un décor de théâtre où on peut puiser les choses voilà, qui sont muettes et inaudibles et qui n'est pas qui est invisible à nous, mais qui font partie de nos acteurs, qui font partie de l'acteur de notre vie. Et quand on lit ça, on se dit bah, tiens, acteur de la vie, est-ce que si on serait. Si l'acteur. Du monde ne serait pas l'humain, mais justement ce qu'on a toujours considéré comme un décor. Mais ils ont plein de choses à nous dire. Ils vivent peut-être des aventures aussi grandes que nous, sauf qu'on n'a jamais mis la caméra sur eux. On n'a jamais raconté des histoires comme ça. Et donc c'était envie de déjà de décentrer de nous, puisque aussi c'est aujourd'hui aussi la solution à la crise, c'est on se dit bah, il faut aussi décentrer notre regard là. Et donc c'est ce geste décentré, et ce qui est génial en cinéma, c'est qu'on peut décentrer, on peut le vivre, hein, cette décentralisation. C'est-à-dire on peut vivre le mouvement, comme on a parlé de ce mouvement des akènes, on peut vivre la hauteur de la caméra. Voilà, on ne regarde pas du tout le monde quand on est à 2 mm du sol et quand on est à 1,60 m. Mais le même chose, mais pas du tout. On n'a pas le même sentiment d'un sol, on n'a pas le même sentiment d'une petite pousse. Donc ces émotions-là, elles sont déjà nouvelles, en fait. Déjà que de déplacer la caméra. En plus de ça, on a le mouvement, en plus de ça, on a la lumière, en plus de ça, on a toutes ces déformations temporelles qu'ils vivent et que nous, on ne vit pas. Donc, le cinéma est un outil génial pour être autre chose. Et donc, c'était envie à la fois de parler d'autre chose, de ce que nous savons. Et je me dis, mais moi, un film où je suis graine de pissenlit et que j'aventure dans l'espace, je veux voir, en fait. Je veux aller aussi dans l'espace et être à la hauteur et découvrir un sol que je veux implanter. Donc c'est aussi cette envie, qu'est-ce que moi je veux voir aujourd'hui au cinéma où c'est, voilà, on a 50 films qui sortent par semaine, bah, qu'est-ce que, voilà, on choisit aussi. Et moi je veux voir ce film d'autres choses sur la nature. C'est le moment de rupture. D'ailleurs, le titre pouvait apparaître là. Parce qu'en fait, en rentrant dans le trou noir, on passe complètement dans un autre monde où c'est le néant. Comme vous dites, il n'y a rien. C'est le noir, il n'y a même pas une étoile. Et c'est là qu'arrive l'oursin, qui est en fait le Big Bang, qui pond toutes ces étoiles. Et donc, c'est le moment un peu de... Soit on est revenu en arrière, et donc cette planète congelée, c'est la planète Terre, il y a 2 milliards d'années qui était quand elle était congelée aussi. Il y a aussi un trouble en disant, mais on est où en fait maintenant? Et aussi, on est revenu dans un monde de planètes, justement, où voilà, les étoiles deviennent calamars, l'oursin devient un Big Bang. Donc c'est juste ce moment-là où tout devient le monde que je propose. Donc c'est un peu un moment de rupture. Et c'est un moment peut-être aussi de solitude que j'avais envie de parler. C'est-à-dire que bah, quand on est au début de notre aventure... je ne sais pas vous, mais moi, quand du moment où j'arrive en France, le moment où on a cette sensation de vide, on se dit, bon, ben voilà, là on fait quoi? Et j'aime bien, enfin, je trouvais que c'était... Je voulais qu'on sente ce moment de vide, ce moment, c'est pour ça qu'il y a un moment où la caméra, elle sort, on est vraiment dans le noir, ils sont un petit point, comme moi, j'ai un peu senti ça par moment, au tout début, et j'avais envie de se dézoomer, et tout d'un coup, hop, on rentre dans l'histoire.